France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Et si, pour comprendre les raisons de l'implantation durable du Front puis du Rassemblement National dans la vie politique française, il fallait ne pas seulement se focaliser sur ce qui demeure un petit parti d'extrême droite dont le programme n'a pas vraiment changé, mais aussi tenter de comprendre, et surtout comprendre, ce qui, autour, dans la société française, a rendu possible cette improbable réussite. C'est la voie proposé par deux politistes, Bernard Pudal et Patrick Lehung, dans un ouvrage de synthèse qui s'appuie sur l'ensemble des nombreuses recherches menées sur cette entreprise politique et 16 électeurs, mais aussi sur des analyses plus originales, des transformations de l'ensemble des configurations sociopolitiques. Patrick Lehung est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Une suite dans les idées en écho et en prolongement de ses pieds sur terre à propos du cordon sanitaire en Belgique, diffusé à l'instant par Sonia Kronlund, et qui continuera à creuser ce sillon dans la deuxième partie avec un écrivain, Mathieu Berman, qui, il y a quelques années déjà, publiait un roman, un état d'urgence, publié aux éditions POL, qui met en scène un personnage dont les liens qui restent à déterminer avec le Front National sont intéressants parce qu'ils sont assez rares, je dois dire, dans la littérature contemporaine. On en reparle en deuxième partie. Patrick Lehung, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, professeur émérite de sciences politiques à l'université d'Amiens, et donc vous publiez avec votre collègue Bernard Pudal du FN au RN, Les raisons d'un succès. C'est un livre qui paraîtra le 13 janvier aux presses universitaires de France. Comme je le disais, c'est un livre qui est plusieurs choses à la fois, un livre de synthèse de beaucoup de travaux. Il s'est publié énormément d'articles scientifiques, quelques ouvrages sérieux aussi sur le Rassemblement National et avant le Front National, depuis le début des années 1980. Vous vous êtes appuyé sur tout ça, mais vous avez apporté des choses originales. Et vous vous êtes réparti, j'imagine, aussi le travail, parce que vous êtes plutôt un spécialiste de la sociologie du vote. Bernard Pudal a travaillé sur des organisations politiques, le Parti communiste longtemps. Et donc, avant d'en venir à ce qui fonde le cœur de votre ouvrage, à savoir la manière dont, au fond, ce parti a pu bénéficier d'un certain nombre de réalités sociales que vous explorez, peut-être convient-il néanmoins, pour commencer, de revenir sur cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire, au fond, cette petite, j'allais dire toute petite entreprise politique. Comment expliquer qu'un parti qui est une entreprise politique familiale au départ, qui est à peine sorti d'ailleurs de ce statut d'une certaine façon, ait pu connaître un tel succès à la fois mesuré avec des scores électoraux, mais surtout une forme de durabilité qui en fait une exception dans les pays comparables à la France, qui connaissent eux aussi une montée en puissance de l'extrême droite, mais pas dans les mêmes termes, Patrick Lehung.
C'est compliqué avec le FN et le RN, c'est d'un certain point de vue qu'il y a une sorte de banalisation et on ne se pose plus guère de questions, quoi. Donc notre propos, ça a été d'essayer de retrouver, d'éveiller des capacités d'étonnement, de retrouver une énigme. Et l'énigme principale est très simple, hein, c'est effectivement celle-là. Comment un parti aussi éthique...
Sans H.
Ou si on veut être un peu polémique, débile au sens latin du terme, hein, débilitas, de faible constitution, hein, malingre, comment un parti aussi fragile a-t-il pu engranger des dynamiques électorales et s'enquister finalement électoralement en France? Et on a finalement opté pour un plan très très simple, hein, une première partie qui essaye de s'attacher à la faiblesse de cette organisation, à son turnover, au fait que c'est un parti de masse simulacre, avec très peu de relais sociaux,
une organisation verticale. Ça, c'est toujours le cas. On le constate à chaque élection, difficulté de trouver des candidats.
Oui, on pourrait dire finalement le RN n'est pas est très différent du FN, c'est en tout cas ce que proclament les actuels dirigeants du RN et notamment les derniers venus. Mais un des éléments de continuité, hein, outre un certain nombre d'invariants idéologiques, c'est effectivement le fait qu'il y a une organisation qui est toujours aussi faible, aussi fragile qu'elle l'était. On pourrait même dire qu'il y a probablement une régression par rapport à la grande époque Maigret. Hein, c'est vrai que la scission maigrettiste a porté un coup très très dur à cette organisation. Donc voilà, comment expliquer, hein, et finalement, les choses sont assez simples. Hein. Ça n'est pas en interrogeant le charisme de Marine Le Pen ou la malignité des dirigeants ou l'inventivité du programme. Donc ça n'est pas en s'interrogeant sur le FN en tant que FN qu'on pourra comprendre cette dynamique électorale. Mais il faut sortir d'un certain point de vue de ce parti pour en comprendre le succès finalement assez paradoxal. On pourrait presque dire injuste au regard des faibles efforts de structuration qui continuent. Hein. Je rappelle que Bardella était au départ chargé de restructurer, de professionnaliser le parti. Et on a bien vu lors des dernières législatives à quel point l'amateurisme continuait à prévaloir.
Donc ça, c'est pour l'organisation. Du côté électoral, Patrick Lehung, dans le livre, vous parlez du FN, du RN aujourd'hui, et de 16 électeurs. Et 16 électeurs, vous le mettez toujours entre guillemets. Pourquoi ?
Oui, de toute façon, c'est la notion d'électorat qu'il faut à chaque fois interroger en sociologie politique. Hein. C'est-à-dire, tout se passe comme si, et c'est particulièrement tentant s'agissant d'une formation d'extrême droite, hein, le FN ou le RN, il est tentant de considérer que c'est une armée homogène, unifiée autour du culte du chef, hein, donc des petits soldats votant pour une même formation, en toute connaissance de cause, adhérant sans aucun problème à son programme, à supposer que ce programme soit connu, voire même élaboré, et on s'aperçoit qu'en fait, hein, les raisons hein, du vote FN sont infiniment diverses. On éprouve beaucoup de difficultés à dresser un portrait robot. On l'a souvent fait, on y a presque maintenant renoncé en sciences politiques. D'autant plus que les instruments qu'on utilisait pour appréhender, alors j'aime bien toujours jouer sur les mots, avoir prise sur et avoir peur d'eux, hein, pour appréhender les électeurs FN, ces instruments étaient généralement réduits à l'instrument sondagier qui présente, bon, on a une quinzaine de pages là-dessus, dans notre ouvrage, qui présente toute une série de biais qui rendent l'appréhension donc des électeurs du FN très problématique, si on se borne en tout cas à ce type d'instrument.
Votre deuxième partie consacrée aux électeurs est tout de même titrée « De plus en plus d'électeurs ». C'est un fait, il suffit de regarder les résultats des élections depuis 1982 jusqu'à 2024. Mais en fait, on aurait tort, ce serait faire fi de tous les travaux de sociologie politique, de considérer que les électeurs, par exemple, de 2024 sont une accumulation d'électeurs qui ont toujours voté RN. Et donc, il y en a de plus en plus parce qu'en fait, on les ajouterait. On s'aperçoit que les carrières des électeurs, leurs trajectoires sont beaucoup plus compliquées que ça.
Oui, oui, oui. Il faut d'abord toujours réintégrer un fait qui est de plus en plus massif en France, pas seulement en France, mais particulièrement en France, c'est-à-dire l'abstention intermittente. Et donc, il y a un va-et-vient, il y a un turnover des dirigeants, mais il y a également un turnover des électeurs, un va-et-vient entre la participation, l'élection, sans compter évidemment les phénomènes de non-inscription ou de non-réinscription en cas de déménagement. Alors tout ça est très important parce que ça permet de revenir sur un certain nombre de mythes, hein, par exemple le Front National comme premier parti des classes populaires. Non, le premier parti des classes populaires, c'est l'abstention, et plus encore si on intègre la non-inscription. Et là-dessus, on a des travaux qui, pour le coup, hein, sont presque irréfutables. Ce sont les grandes enquêtes de participation électorale de l'INSEE, hein, qui ne reposent pas sur des sondages, mais sur à la fois, enfin, sur un croisement entre le recensement et le fait qu'on va se rendre dans les préfectures pour voir si, oui ou non, les gens ont été votés, ont signé les listes de démargement.
Mais c'est autrement là, plus solide que n'importe quel sondage.
C'est extraordinairement solide, d'autant plus que ça porte généralement sur 15, 20 et quelquefois 30 000 personnes, et on a du même coup hein, la possibilité de cerner sociologiquement hein, des sous-groupes sociaux de façon très très fine. Et ça nous permet de constater, il y a eu un très très bel article dans la revue française de sciences politiques là-dessus, que les écarts de participation sont absolument abyssaux. C'est-à-dire non seulement, et ça on le sait bien, il y a une progression d'abstention, mais il y a surtout hein, un écart de plus en plus béant entre la participation électorale des classes populaires pour aller vite, et la participation électorale des électeurs les plus anciens, les mieux dotés, etc. Ce que d'ailleurs les travaux de Thomas Piketty et de Julia Cagé avaient éclairé d'un tout autre regard, puisque en travaillant sur la très longue période et sur des résultats réels, il parvenait à démontrer que les municipalités communistes ou les municipalités ouvrières, dans les années 50-60, votaient plus que la moyenne nationale. Donc on a là un renversement qui, me semble-t-il, n'est pas suffisamment interrogé, en tout cas n'est pas suffisamment mis en relief.
Alors voilà par exemple un bon exemple de transformation de cette configuration sociopolitique qui permet de comprendre les raisons du succès de ce parti d'extrême droite au fil du temps. C'est certainement pas une cause. Vous insistez beaucoup sur le caractère multicausal de ces explications. Cette configuration sociopolitique, elle a considérablement changé et on peut dire au fond que ces changements globalement ont bénéficié au Front National puis au Rassemblement National, à tel point que vous en venez à caractériser ce parti de parti aubaine.
Oui, c'est en jouant un petit peu sur les mots, c'est un parti aubaine au sens du terme, c'est-à-dire c'est une aubaine pour un certain nombre d'apprentis professionnels de la politique qui font une carrière très très rapide dans ce l'exemple typique étant celui de Bardella, mais on pourrait citer également Sébastien Chenu.
Un peu comme l'a été En Marche d'ailleurs du point de vue de la sociologie politique aussi.
Mais je crois que le turnover est encore plus important et l'accélération des carrières est encore plus flagrante au Rassemblement National, ou auparavant au Front National.
Donc aubaine à cette double sens du terme.
Il est aubaine, oui, pour un certain nombre de ses actuels dirigeants, mais il bénéficie également d'effets d'aubaine, c'est-à-dire d'un certain nombre de dynamiques causales, qui entraîne progressivement et sans qu'on puisse très précisément le dater des changements configurationnels, hein, si on raisonne un petit peu comme Elias, et il n'en est évidemment, il en est le bénéficiaire, il n'en est pas l'instigateur. C'est donc bien en dehors du Front National ou du Rassemblement National qu'il faut essayer de trouver les raisons de sa fortune électorale.
Alors elles sont multiples, ces raisons et ces causes sont multiples. Vous choisissez de vous arrêter sur quatre d'entre elles, grandes causes. Je propose qu'on les reprenne ensemble. Il y en aurait d'autres, peut-être on va les...
On en a recensé une soixantaine, c'est-à-dire à la fois dans la littérature savante et par exemple dans les commentaires électoraux post-élection européenne ou élections législatives suite à la dissolution, il y en a à peu près une soixantaine. Et donc on a essayé de s'interroger sur ce qui nous paraît être les dynamiques causales, enfin la dynamique causale la plus importante, et on en a recensé effectivement quatre, mais sans prétention à l'exhaustivité.
Alors je ne sais pas si vous les avez classés par ordre d'importance, en pondérant au fond l'importance de ces causes, mais en tous les cas vous avez choisi d'ouvrir par l'une qui est probablement aussi très ancienne, qui est concomitante avec l'émergence, la percée du Front National, ce qu'on appelle la crise économique. Ça, l'expression apparaît dans les années 1970, mais elle se traduit pleinement au début des années 1980, Patrick Le Hingue.
Oui, c'est une crise économique et sociale. On peine à trouver un syntagme un petit peu plus précis. Bon, si on veut être un tout petit peu plus raffiné, on pourra dire que c'est la déperdition de la régulation fordiste, hein, mais qui entraîne des phénomènes sociaux massifs et notamment une sorte de d'insécurité sociale. Alors, pour parler comme Castel ou actuellement comme Duvoux, qui n'est pas sans conséquence. Enfin, on reprend d'un certain point de vue la très vieille intuition de Marx. Hein. Si on veut comprendre ce qui se passe dans la tête des hommes, il faut essayer d'avoir un regard sur leurs conditions d'existence pratique. Et effectivement, cette insécurisation sociale, elle est au principe de lutte, de concurrence autour de la répartition d'un certain nombre de biens qui sont de plus en plus rares. Hein, les salaires, les emplois, les protections sociales, les services publics. Et c'est ce qui peut, en première analyse expliquée, enfin c'est le premier terreau, même si c'est une explication qui n'est pas suffisante, mais c'est une sorte de toile de fond, un fond de carte sans lequel, me semble-t-il, on ne peut rien comprendre.
Je me rappelle, ça ne nous rajeunit pas, Patrick Le Hingue, avoir lu à la fin des années 80 un livre collectif qui s'appelait Enjeux municipaux, oui, publié par une équipe de recherche à laquelle vous apparteniez au CURAP à Amiens, sur une enquête menée à la faveur d'élections municipales qui montrait précisément déjà que derrière la notion d'insécurité, c'était avant tout l'insécurité sociale qui était pointée par ces électeurs qui étaient amenés à voter déjà pour le Front National.
Oui, on avait dépouillé toute une série de questionnaires sur les attentes en matière d'élections municipales. Effectivement, le syntagme sécurité apparaissait beaucoup, mais dès qu'on procédait à des questions ouvertes, c'était bien d'insécurité sociale dont il était question, et très peu d'insécurité physique, enfin, au sens, dans la définition sécuritaire, si j'ose dire, qu'en a donné, entre autres, le Front National et le Rassemblement National.
Et c'était bien avant l'apparition du livre important de Robert Castel sur l'insécurité sociale, dont les travaux, vous le rappeliez, sont prolongés aujourd'hui, notamment par Nicolas Duvoux. Deuxième grande cause que vous observez, le champ politique. On a beaucoup de travaux ont pointé à quel point, au fond, le succès du Front National puis du Rassemblement National était lié à une forme de professionnalisation de plus en plus grande, de clôture du champ politique sur lui-même, de critique du coup des professionnels de la politique, tout ça bénéficiant, profitant très largement au Rassemblement National. C'est une cause très importante.
C'est une cause très importante, et puis il y en a d'autres en partie liées. Les phénomènes de corruption qui ont été médiatiquement très très... Je crois que c'est Bourdieu qui disait que, avant de s'interroger sur le prétendu racisme des classes populaires, il faudrait s'interroger sur les phénomènes de corruption qui ont des effets délétères, hein, sur, et des effets évidemment très très bénéficiaires, hein, pour le Front National, même si ce parti et ses équivalents étrangers sont loin d'être aussi propre, hein, main propre, tête haute, qu'ils ne le prétendent. Donc on a ça, on a cet effet de clôture qui, me semble-t-il, est plus important encore en France qu'ailleurs, avec des phénomènes, on va encore citer Marx, de crétinisme parlementaire qui sont de plus en plus avérés. Mais on a également, me semble-t-il, hein, la question de l'impuissance du politique.
Je pense que... Je vous arrête juste sur cette séquence, c'est-à-dire que la séquence là qui s'est ouverte avec après les dernières législatives, qui a vu ce qui se passe au Parlement, par exemple, pour ne prendre que celui-là, un budget de la sécurité sociale voté par un seul député, ce spectacle-là est quelque chose qui objectivement profite à ce parti aubaine qui est le Rassemblement National.
Oui, qui est parfaitement incompréhensible pour des citoyens dont il faut toujours rappeler que pour une grande part d'entre eux, ils ont une attitude très très distante, hein, structurellement distante par rapport au champ politique. Et là, effectivement, le spectacle actuel n'est pas susceptible d'entraîner une forte mobilisation électorale. Mais par contre, il profite, mais la question qu'il faudrait poser, c'est qu'est-ce qui ne profite pas ? Il profite probablement au Front National ou au Rassemblement National, même s'ils en sont quelque part également les agents actifs.
Déstructuration du champ politique dans lequel cette organisation a su évoluer au fil du temps, se professionnaliser, se banaliser, tenter de se banaliser, ressembler aux autres, jouant toujours sur un fil. Bon, c'est toutes ces choses que vous abordez dans cette partie, mais je voudrais qu'on s'arrête un peu plus longuement, peut-être, sur la troisième cause qui me semble très très importante, celle qui renvoie à la place de l'école en France. Parce que c'est l'une des choses qui permet de comprendre peut-être cette spécificité française, c'est-à-dire cette extrême droite qui s'installe durablement à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays. On a une école très particulière en France.
Oui. Je crois que c'est le chapitre le plus original, parce que, d'un certain point de vue, on a écrit cet ouvrage en réaction contre des approches trop politologiques, hein, c'est-à-dire une explication du politique au sens très étroit du terme, hein, c'est-à-dire l'élection et les grands hommes ou les grands chefs, par le politique, une explication du politique par le politique à l'aide de sondages. Bon, c'est contre ce type d'approche qu'on s'est insurgé. Et là, avec la crise du système scolaire, ou plus exactement avec ce qu'on pourrait appeler la généralisation, hein, d'un système ségrégatif du secondaire et du supérieur, qui est très bien incarné par exemple par la réforme Mabie, là on touche quelque chose qui n'est pas complètement évident, qui est en dehors même du politique et qui pourtant a des effets massifs. Alors ces effets massifs, c'est quoi ? C'est le fait que de plus en plus, on a une monopolisation, hein, des emplois via les diplômes, et on a une sorte de mépris, de ressentiment, hein, d'un nombre de plus en plus important d'élèves, les enquêtes PISA le prouvent bien, qui sont complètement écartés du système scolaire, à ceci près que, contrairement à ce qui se passait auparavant, on ne peut pas imputer, hein, cette exclusion au système, mais il est d'abord et avant tout imputable aux individus eux-mêmes, ou à leur famille, pire encore, ou à leur famille. D'où d'où un désarroi, un mépris et un ressentiment contre les porteurs de culture qui auparavant étaient légitimes, ce que Bernard Pudal appelle les intellectuels de relais, auparavant les prêtres, les instituteurs ou les permanents syndicaux, et on a une sorte de ressentiment contre ces porteurs de culture qui étaient en même temps des censeurs des dispositions xénophobes voire racistes qui ont toujours prévalu, mais qui étaient d'un certain point de vue mis sous boisseau grâce à cette autorité presque naturelle, qui n'avait rien de naturel, qui était sociale, de ces intellectuels relais. Et cette crise du système au terme duquel la méritocratie est remplacée par une héritocratie, cette crise a des effets très très profonds. Quand vous interrogez, alors évidemment, on sait bien que l'une des relations probabilistes les plus fortes, c'est entre l'absence ou le peu de diplôme et le vote FN, mais qu'est-ce qu'on fait de cela ?
Oui, on sait par exemple généralement, dans lequel le niveau diplôme est le plus bas, c'est le Gard en France, et c'est là aussi qu'on observe les scores les plus élevés du Rassemblement National.
Donc on a une corrélation statistique, mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et généralement, on va se contenter de dire, c'est une absence d'esprit critique, ils n'ont pas été suffisamment à l'école, donc... ça va évidemment beaucoup plus loin que ça. Et un certain nombre d'électeurs du Front National ont d'assez bonnes raisons au regard de leur expérience malheureuse du système scolaire, d'éventuellement voter pour ce parti qui cultive cette haine. Il faut relire. Bernard Pudal avait fait un très bel article là-dessus, les mémoires de Jean-Marie Le Pen, qui sont d'une violence inouïe par rapport au système scolaire. Bon, évidemment, dans le cas de la dédiabolisation, Marine Le Pen a évidemment un peu corrigé le tir.
Pour cette partie, vous vous appuyez sur des travaux, je le disais, de chercheuses et de chercheurs, mais aussi, par exemple, sur le documentaire La Cravate. Mathias Théry était venu en parler ici, en dialogue avec Raphaël Chalier, un sociologue qui a travaillé sur les catégories populaires et les militants du Rassemblement National de façon très, très pertinente. Vous appuyez aussi sur des travaux très récents. Félicien Faury est venu dans cette émission parler notamment de cette question de l'école, de la question du racisme aussi, pour expliquer à quel point, au fond, le racisme était déterminant dans le vote RN, mais pas forcément comme on l'entend, c'est-à-dire que les électeurs RN ne sont pas nécessairement les plus racistes des électeurs, simplement, ils sont racistes, comme le sont d'autres électeurs, mais ils ont d'autres propriétés sociales qui font que ce racisme peut contribuer à faire advenir ce vote pour le Rassemblement National.
Tout à fait. Mais je crois qu'il y a une lecture un peu biaisée de Félicien Faury, on en a déjà discuté avec lui. Il y a effectivement... les électeurs du Front National n'ont pas le monopole, loin, s'en fout, du racisme. Moi, je cite toujours cette statistique très très simple qui consiste à essayer de voir, par rapport à un candidat dont on peut considérer qu'il a un programme pas très loin d'être raciste, ou racialiste en tout cas, Éric Zemmour, il suffit de voir la géographie électorale d'Éric Zemmour pour bien tout de suite comprendre que il y a une forme de bourgeoisie traditionnelle.
Ça ressemble à l'électorat du FN en 1984, dans les beaux quartiers parisiens. En fait.
Le premier électorat du FN 84, quand Simone Veil était tête de liste de la droite et que une certaine droite traditionnelle ne concevait pas pouvoir voter pour elle, donc voter pour Le Pen. Et c'est effectivement tout à fait cette même géographie, mais qui prouve bien à quel point il n'y a pas un monopole des électeurs du Front National. Et à chaque fois, derrière, c'est pour ça que les entretiens approfondis, ceux de Félicien Faury ou de Christelle Lagier et de bien d'autres, sont tout à fait importants pour compléter, voire même pour réfuter les sondages d'opinion. On s'aperçoit qu'effectivement, à chaque fois, derrière la question des immigrés, des étrangers, de les renvoyer, il y a des préoccupations économiques, sociales, scolaires, qui renvoient à chaque fois au fait que les ressources publiques sont de plus en plus rares et qu'il y a un combat de plus en plus aigu pour se les partager.
On voit bien d'ailleurs, à travers l'exemple que vous venez de citer, comment ces différentes variables, ces différentes causes sont intriquées les unes avec les autres. Parce que là, on parle de racisme, on parle d'école, ça renvoie aux moyens, aux services publics d'un côté, et puis ça renvoie de l'autre à la quatrième cause, qui est ce que vous appelez la régression vers le sens commun national. C'est-à-dire, au fond, ce grand récit nationaliste, dont on peut se dire que depuis 40 ans, il n'a cessé de prendre une place place, et les derniers mois ne viennent pas nous démentir, une place de plus en plus importante, Patrick Lohan.
Oui. Il y a un sens commun national hein, qui existe probablement dans tous les pays, particulièrement en France, probablement de par l'ancienneté historique de la construction de l'identité nationale. Hein, je renvoie par exemple à un ouvrage comme celui de Colette Beaune hein, sur, qui part quasiment de Jeanne d'Arc. Hein.
Et puis aussi, là encore, la place de l'école, la place accordée à l'histoire, à l'enseignement de l'histoire dans le cursus français, qui est quand même très spécifique.
Et la fameuse vertu civilisatrice de la France dans son empire colonial, ce qu'il y a encore. Hein. Donc il y a tout un sens commun national, voire, il ne faudrait pas pousser trop loin pour dire nationaliste, qui préexiste, mais qui est particulièrement activé. C'est là où on voit que les choses s'intriquent en période de crise. Ce que quelqu'un comme Karl Polanyi avait très très bien montré pour la crise des années 30. Hein, toutes les phases de mondialisation hein, et de financiarisation sont toujours accompagnées d'une sorte de contre-coup culturel et de recherche hein, effrénée de boucs émissaires. Ça s'agissant des populations les plus fragiles. Alors, l'intérêt peut-être de ce dernier chapitre, c'est de débusquer hein, ce qu'on pourrait appeler cet habitus national qui peut virer au nativisme dans des pratiques qui sont très très banales, comme par exemple l'arbre généalogique, où on faisait référence tout à l'heure à Renaud Camus. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à Renaud Camus, qui pourtant continue à être un conseil de lecture prodigué par les responsables du Front National ou du Rassemblement National à leurs adhérents. Mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au pseudo-concept de préférence nationale pour être d'un certain point de vue imprégné, pour avoir intériorisé ce sens commun national qui peut, en période de crise, aller jusqu'au nativisme.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres situations internationales qui ont vu la montée de l'extrême droite, en particulier en Europe. Vous procédez, pour terminer ce livre, à une sorte de rapide comparaison, non pas pour être capable de faire le point sur l'ensemble des situations, mais bien plutôt pour faire ressortir la spécificité de la situation française, Patrick.
Oui, c'est-à-dire que on s'est aperçu que la France, si on compare aux démocraties occidentales électives comparables, était le seul pays qui, depuis 1984, accordé à une formation qu'on peut qualifier d'extrême droite, un pourcentage de voix jamais inférieur à 10%. J'avais fait le calcul sur 29 consultations nationales.
Vous dites qu'il y a trois exceptions, mais qui sont très
fugitives d'abord. Hein, c'est, si on veut les citer, hein, les premières européennes qui suivent la scission où Maigret affronte Le Pen. Donc là, il est un peu normal que le Front National redescende. Et puis, le fameux siphonnage sarkozyste au moment de la présidentielle, de la législative et des européennes qui suivent. Et puis, c'est tout. Et vous ne trouvez aucun autre pays où une formation d'extrême droite arrive à capitaliser au moins 10% et souvent plus. D'où la question, par rapport à tout ce qui s'est dit sur le mythe de l'allergie française au fascisme, d'où la question, comment se fait-il que la France souffre d'une telle exception? Alors, la réponse est pas simple, mais je pense que, armée des quatre dynamiques causales qu'on vient de rappeler, on peut simplement émettre l'hypothèse que ces dynamiques jouent avec une particulière saillance en France. Alors après, le démontrer par A plus B, ça demanderait un autre ouvrage et ça demanderait des compétences que nous n'avons probablement pas. Parce que si on veut faire du comparatisme sérieux, hein, il faut travailler sur les systèmes scolaires dans une dizaine de pays et sur l'évolution de ces systèmes scolaires. Mais par exemple, c'est un simple exemple, les enquêtes PISA sont quand même terribles. Quand on fait des analyses comparatives, hein, et elles prouvent à quel point les résultats scolaires en France sont dépendants de l'origine sociale des parents. Il n'y a pas un pays où ils ne sont autant dépendants qu'en France. Ce qui, évidemment, heurte beaucoup notre culte méritocratique. Et de la même façon, il y a une baisse à peu près généralisée du niveau, hein, comme on le dit, mais c'est en France que cette baisse est la plus accentuée s'agissant des enfants des classes populaires. Et donc, bon, là, on a une sorte de boulevard, hein, si notre hypothèse est bonne, on a une sorte de boulevard pour le Rassemblement National sans qu'il soit l'instigateur de ce boulevard, si j'ose dire.
On s'est arrêté avec vous, Patrick Lehung, sur quatre grands ensembles de causes qui permettent de comprendre en quoi Rassemblement National est un parti aubaine, quatre transformations majeures de la société française qui ont bénéficié de manière assez objective au positionnement de ce parti. Vous disiez tout à l'heure que vous en aviez listé une soixantaine. J'ai envie d'en ajouter une. Elle est sûrement dans la liste de vos 60, mais elle aurait pu figurer peut-être dans le livre. Elle permet aussi de faire écho à ce qu'on a entendu dans Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund. C'est évidemment le rôle des médias. Et si je le rajoute, c'est aussi parce que, précisément, Nona Mayer l'a bien montré, Safia Dahani aussi, cette histoire de banalisation, de normalisation, de dédiabolisation, elle est d'abord et avant tout une fabrication médiatique avant d'être une véritable proposition politique du RN. C'est dans cet ordre-là que les choses se sont faites. Indépendamment de cette observation-là, on peut constater quand même que la mutation numérique a fait se transformer considérablement l'espace public et les médias ces 30 dernières années, et dans des sens qui, là encore, objectivement, on peut en faire l'hypothèse, ont massivement bénéficié à l'extrême droite, Patrick Lehen.
Et là, je pense que, mais je crois que vous avez vous-même écrit un article là-dessus il n'y a pas très longtemps, il ne faut pas s'attacher à l'hydre Bolloré, si je veux. Bon, je ne veux pas dire que ça n'ait pas d'effet, ça en a évidemment, mais il y a probablement des effets plus profonds et plus pernicieux, par exemple via les réseaux sociaux, le biais de positivité. On s'aperçoit que ça entretient toute une série de dispositions complotistes sur lesquelles le RN peut tout à fait surfer. De même, bon, il y a effectivement toute une recherche de scoop. Alexandre Désé l'avait très très bien montré, hein, alors qui vient à la fois des journalistes, mais également des sondeurs, si tant est qu'on puisse quelquefois les différencier.
Une récente émission avec Hugo Touzé nous a permis de comprendre l'intrication entre les deux.
Effectivement. Et bon, là, par exemple, ce que montre Désé, c'est que 2 mois après le congrès où Marine Le Pen, en tant que nouvelle présidente, lance la dédiabolisation, on a toute une série de sondages et des responsables d'instituts de sondage qui disent ça y est, c'est gagné. Le processus de dédiabolisation est approuvé au moins par nos sondeurs. Et là, on voit bien à quel point on a une sorte de prophétie autoréalisatrice qui est quand même quelque part scientifiquement très condamnable, quoi.
On va poursuivre sur l'extrême droite, le Rassemblement National, le Front National, pour essayer de voir un contre-exemple, une façon pour la littérature contemporaine de s'emparer d'une figure de potentiel électeur du Front National. C'est assez rare pour être signalé. C'est Mathieu Berman qui nous rejoint dans la deuxième partie de cette émission. Mais c'est après un titre, l'un des plus beaux titres de l'année qui vient de s'écouler, avant qu'on découvre les nouveautés de 2026, mais elle tarde à arriver, un titre de Smerz, You've Got Time and I Got Money.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Put your hands around my body. Hold me tight and show it to me. I am yours and your boy only. Time and I got money. Put your hands around me.
parle du FN, du RN, de ses électeurs dans cette suite dans les idées. On en a parlé avec Patrick Lehingue à propos du livre qu'il co-signe avec Bernard Pudal qui va paraître la semaine prochaine aux presses universitaires de France, du FN au RN, les raisons d'un succès. Et on en parle avec vous, Mathieu Berman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous avez publié 4 romans jusqu'ici. Le deuxième, c'est ça, était titré Un état d'urgence. Il a paru il y a quelques années maintenant. Il parlait d'un moment particulier dont on a, j'allais dire, pas célébré l'anniversaire, les attentats de Paris, puisqu'il se déroule en grande partie ce jour-là, enfin disons qu'il commence à peu près à ce moment-là, mais surtout il met en scène un personnage qui me semble rare dans la littérature française contemporaine, parce que j'ai cherché, j'ai pas fait une recherche exhaustive, mais il me semble que compte tenu de la place massive qu'a l'extrême droite dans la vie politique depuis plus de 40 ans en France, on devrait en trouver davantage de traces dans la littérature contemporaine. On a parlé d'un documentaire, La Cravate. François Beaune était venu ici parler d'un livre dans lequel il parle d'un électeur RN, mais finalement c'est assez rare. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à imaginer un personnage dont on ne peut pas dire nécessairement d'ailleurs qu'il était électeur du FN ? C'est plus compliqué que ça, sans doute.
Alors, j'avais un peu peur que vous me posiez cette question de pourquoi avoir écrit ce livre et où j'ai eu l'idée. En fait, j'ai rencontré, d'une certaine manière, ce personnage. Et si je dois faire une sorte de confidence, en quelque sorte, c'était un garçon que je trouvais extrêmement beau, comme dans le livre, qui est une qualité qui saute aux yeux. Et je passais un petit peu de temps avec lui et je me racontais un peu sa vie, etc. Et après quelques rencontres, plusieurs rencontres, comme dans le livre, il a une phrase comme ça, au détour d'une conversation, qui laisse penser qu'il adhère aux idées de Marine Le Pen et du Front National à l'époque. Et moi, je n'imaginais pas un instant ça. Et ma réaction a été, je me suis figé. Enfin, j'ai été glacé.
Oui, voilà, c'est le glacé, mot que dans le roman.
Effectivement. Et donc, c'est une émotion dont j'ai pas, enfin, dont j'ai gardé trace, dont je n'ai pas, enfin, j'ai aucune fierté, même je trouve pas que ça soit une réaction qu'il faille avoir. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai eue à ce moment-là et qui m'est restée. Et quand j'ai commencé ce livre, je me suis souvenu de cette émotion et j'ai écrit à partir de cette émotion-là.
Alors la façon dont ce personnage, ou peut-être situé, en fait, l'histoire est racontée par un tiers, mais c'est l'histoire de la rencontre entre une jeune avocate et un barman, plus jeune encore. Cette avocate a un vrai sorte de coup de foudre lié à la beauté de ce barman dans un bar d'hôtel d'un quartier chic parisien, à tel point qu'elle y revient dans ce bar d'hôtel, elle cherche la rencontre avec lui. Et elle ne sait rien de lui à part sa beauté. Et les premiers éléments biographiques qu'elle va obtenir, elle va les obtenir via un collègue. Et elle va savoir d'où il vient, des quartiers populaires, de la banlieue de Paris. Et très rapidement arrive la question du niveau d'études, en fait. Et donc j'y ai vu comme un signe. On a parlé tout à l'heure de l'importance de l'école dans la configuration sociopolitique qui a permis l'émergence et la stabilisation, le renforcement du Rassemblement National. Et je me suis dit, au fond, pour mettre en scène un personnage qui a un rapport avec cette extrême droite, aussi quel qu'il soit finalement, c'est quand même la porte de l'école que le romancier emprunte. J'y vois plus qu'un hasard, au fond, Mathieu Berman.
Oui, le personnage de Maxence donc abandonne l'école en cinquième, je crois, et ce qui surprend beaucoup Louise, qui est séduite et amoureuse de lui, c'est que non seulement il n'a pas le bac, mais effectivement il a arrêté très 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 tôt. Et elle se demande même si c'est possible d'arrêter aussi tôt, c'est-à-dire que là encore elle n'envisage pas du tout cette possibilité-là.
Et de son point de vue, et c'est significatif, elle se dit au fond peut-être qu'il a fait un CAP ou un BEP, elle ne sait pas très bien quelle est la différence, ce qui en dit long aussi sur cette coupure sociale française forte.
Voilà, parce qu'elle est inscrite dans un parcours d'études assez tracé par sa famille, par le milieu social qui est le sien. Et elle n'imagine pas tellement d'autres trajectoires. Enfin, Évidemment, elle les imagine parce qu'on comprend que Louise est une électrice enfin de gauche plutôt, donc qui a une conscience sociale, qui a conscience des injustices, des inégalités, mais de manière assez théorique en réalité. Et elle découvre à travers le personnage de Maxence une réalité qu'elle ignore au fond. Et elle ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure, la société qui l'entoure, et elle va à quelques kilomètres de Paris à un moment à la Courneuve voir où il habite et là encore elle est confrontée à la fois à ses fantasmes et à la réalité parce que à un moment elle dit elle est presque déçue que ça crée enfin qu'elle ait pas plus peur ou qu'elle ne se soit pas aussi dangereux malfamé que ce qu'elle imaginait. Même si le personnage lui dit, bon, attention, là, c'est en plein jour, etc., il y a différents quartiers. Enfin, voilà, donc c'est l'idée, effectivement, elle gère avec ses fantasmes la réalité, et parfois la réalité est trop violente pour elle, donc elle choisit plutôt de se retirer de cette histoire amoureuse, parce qu'elle n'arrive pas à accepter que Maxence puisse avoir ses idées, même si elle n'est pas tout à fait sûre qu'il les ait vraiment, qu'il adhère. Est-ce que c'est un vote d'adhésion, de protestation? Elle essaye de se débattre un peu avec ça, en espérant plutôt l'un que l'autre.
Et dans un contexte, je l'ai rappelé, celui des attentats, du traumatisme pour la population de cette ville, peut-être du pays dans son ensemble.
Oui, parce que la vraie rencontre de séduction, le coup de foudre, a lieu justement le vendredi 13 novembre, le soir des attentats, ce qui fait qu'elle vit à la fois les attentats, parce qu'elle est dans le bar avec lui, où il est serveur, mais en même temps, elle tombe amoureuse aussi ce soir-là. Il y a bien dû avoir aussi des gens qui sont tombés amoureux ce soir-là, et c'est ça qui m'a aussi intéressé dans cette histoire.
Mathieu Berman, vous évoquiez la manière dont elle le voit, lui, à partir du moment où elle a entendu cette remarque qui lui laisse à penser qu'il puisse être un électeur du Front National. Mais le lecteur ou la lectrice de votre livre, avant d'en arriver à ce moment-là, découvre ce personnage, comme je le disais, notamment à travers du prisme de sa relation à l'école et de la façon dont lui, cette fois, vit les choses dans la société française, à tel point que la rencontre avec elle le conduit à imaginer reprendre des études, ce qui est une chose aussi, là encore, socialement très intéressante.
Effectivement, Louise a des fantasmes ou des peurs qu'elle projette sur Maxence, mais Maxence a aussi des fantasmes qu'il projette sur Louise, qui incarne le monde, justement, de la culture, des diplômes, et il y voit peut-être une porte de sortie, une porte de secours pour s'extraire de sa réalité, et il envisage de reprendre des études. Et elle essaie de l'aider dans cette démarche. Et alors, il ne va pas très loin dans cette démarche parce qu'il dit que lorsqu'il va se renseigner dans une... Alors, je ne sais plus si c'est à l'université ou dans quelle institution.
À l'université,
effectivement. Il est mal reçu par le secrétariat.
On se moque de lui. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez pas de bac, vous n'avez rien à faire là.
Voilà, et donc, vexé, et à juste titre vexé, il se sent rejeté par le système, et très vite, il abandonne cette idée de reprendre ses études. Mais Louise ne sait pas exactement...
Mais ça l'énerve beaucoup, Louise, que l'administration puisse se comporter...
Alors, évidemment, cette injustice dont est victime celui qu'elle aime, elle la ressent vraiment, mais... Elle arrive à un moment à se demander aussi si lui ne s'en sert pas comme prétexte pour abandonner ce qui, au fond, n'était peut-être qu'un rêve et qui n'était pas amené à devenir une réalité, parce qu'on se rend compte que dans la vie de Maxence, il a aussi beaucoup, c'est peut-être exagéré, mais quelques opportunités qu'il ne saisit pas, qu'il n'arrive pas à saisir ou qui avortent. Et donc, elle se dit que peut-être, là aussi, c'était un rêve qui n'était pas amené à devenir une réalité.
Patrick Lehuynck, ce qui m'a intéressé dans l'idée de vous faire dialoguer avec Mathieu Berman, c'est qu'au fond, cette question de l'électeur d'extrême droite, Front National, elle est posée littérairement cette fois à rebours de la démarche politologique habituelle. C'est-à-dire que c'est la société française, les relations sociales dans cette société qui permettent de comprendre des choses.
Alors d'abord, on n'est même pas certain, enfin, on est presque certain qu'il n'a pas voté Front National. Donc il y a simplement un discours anti-immigré qui, malheureusement, est presque devenu banal. Mais moi, ce qui m'a effectivement intéressé, c'est l'entrée par l'école. Et notamment, de mémoire, je veux reprendre mes études, je veux être moins bête. C'est quand même quelque chose. Et puis, quand vous venez de l'expliquer, hein, ce désir un peu fou, un peu utopique, vient à s'évanouir, ce qui m'a frappé, c'est par trois fois, j'ai l'impression, il dialogue avec cette avocate et il lui dit je voudrais que tu m'apprennes tout ce que tu sais. Et effectivement, c'est toujours lui qui pose des questions, hein, comment ça se passe quand on est avocat, etc. Et évidemment, il répugne, lui, à se dévoiler. Et donc, on a toujours un rapport au savoir, un rapport dont on peut imaginer qu'il a été malheureux, et qui est, moi, qui m'a beaucoup intéressé pour essayer de comprendre, effectivement, ces dispositions.
Mathieu Berman.
Oui, et ce qui surprend d'autant plus le personnage de Louise, c'est qu'elle ne se sent pas comme quelqu'un qui a une grande culture ou qui a... Certes, elle a des diplômes, elle a un travail qui lui plaît plus ou moins, mais parfois, elle a peur de le décevoir, parce que parfois, il lui dit « qu'est-ce que tu écoutes comme musique ?» et elle pense que c'est bien de dire qu'elle écoute du rap, et lui a l'air presque déçu, parce qu'il s'imagine peut-être qu'elle écoute que de l'opéra ou de la musique
d'ailleurs,
classique.
D'ailleurs, il l'invite à l'opéra Bastille.
Voilà, lui, il l'invite à l'opéra. Et voilà, donc chacun projette une image sur l'autre qui ne correspond pas... Enfin, on ne sait pas à quel point ça correspond à la réalité.
Merci beaucoup, Mathieu Berman. Une petite, juste dernière question, rapidement... parce que je faisais la remarque tout à l'heure de la relative absence de cette question de l'extrême droite dans la littérature contemporaine. Vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi enseignant, notamment dans un master de création littéraire à Paris 8. Vous faites le même constat que moi, où vous voyez des textes, des tentatives, des injonctions à se saisir de cette question chez des jeunes étudiants?
Non, effectivement, je trouve que ça reste assez hors du champ littéraire, mais... C'est assez significatif, finalement, de ce que décrit le roman. C'est-à-dire, on vit dans une bulle. Et donc, assez homogène. Et finalement, ceux qui produisent aussi de la littérature vivent dans leur bulle. Tout le monde vit dans une bulle, et c'est très bien. Mais effectivement, des fois, la bulle éclate et on voit autre chose que ce qu'il y a dans ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, quoi.
Un état d'urgence, c'est le titre de ce roman paru aux éditions POL. Du FNORN, Les raisons d'un succès, c'est le titre du livre de Patrick Lehingue et Bernard Pudal. Les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées.
France Culture, La Suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité consacrée cette semaine à une revue, et quelle revue, Présence africaine, qui consacre son dernier numéro, il est paru il y a quelques semaines, au centenaire de Frantz Fanon. Le centenaire, c'était en juillet dernier, il a fallu quelques temps supplémentaires pour produire ce numéro, mais il est passionnant. Bonjour Boniface Mongo-Mboussa, vous êtes le rédacteur en chef de Présence africaine.
Oui, bonjour.
Et merci. Vous avez coordonné ce numéro, vous l'avez introduit. L'idée, c'était évidemment de piocher, je dirais, dans la profondeur aussi des archives de la revue. Revue qui a organisé ces fameux congrès dans lesquels Fanon a pris une part importante.
C'est ça.
Aussi voir ce qui s'est passé au moment de la mort très jeune de Fanon. Fanon, ouais. Et puis poser la question, ce que vous faites dans votre avant-propos, la question peut-être un peu dérangeante d'ailleurs de la lecture de Fanon par les intellectuels africains, jusqu'y compris aujourd'hui en fait.
Oui, tout à fait. Mais en fait, quand il se trouve que Fanon a été préfacé par Jean-Paul Sartre, Et donc, tous les débats, pratiquement, tournaient autour de cette préface. Je crois que les Européens, certains n'ont pas admis le fait que Sartre, en préfaçant Fanon quelque part, l'installait définitivement. Et les Africains ont profité également de l'aura de Fanon pour lire Fanon à travers le biais de cette préface. Et donc, du coup, on s'est focalisé sur la question de la violence, la question coloniale.
Premier chapitre
du livre, et on a totalement occulté Fanon, qui a un itinéraire, qui est d'abord médecin, psychiatre, et qui aborde la violence par le biais de la folie. Mais cet aspect de l'œuvre de Fanon était totalement occulté, évacué. Et surtout par les Africains. C'est ça ce qui est... totalement terrifiant. Ce qui fait que dans les années 90, quand les gens comme Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut faisaient du fanon bashing, qui s'attardaient sur cette préface-là, mais qui dialoguait avec le père qui était Sartre, eh bien les Africains étaient muets.
Et donc, c'est presque à regret, mais en même temps, avec une certaine fierté que vous annoncez le sommaire, qui est composé de beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, mais trop peu, très peu d'Africains.
Très peu d'Africains. Beaucoup ont promis. Moi, j'ai envoyé des courriels, les gens m'ont promis à Fanon. À l'arrivée, malheureusement, d'ailleurs, je le signale, la plupart des contributions sont des femmes. Malheureusement, il y a très peu d'Africains. Dans le sommaire. Alors qu'il est souvent brandi, revendiqué, le grand révolutionnaire dans tous les débats coloniaux, post-coloniaux. Et quand il s'agit de réfléchir sur le centenaire de Fanon, eh ben, tout le monde était absent parce que les gens étaient aussi gênés.
Je le disais, la revue a profité de sa profondeur historique, revue créée à la fin des années 40, à Paris, dans le 5e arrondissement, où elle est toujours, à côté de cette librairie Présence africaine, parce que c'est à la fois une librairie, une maison d'édition et une revue, un lieu absolument central. Vous avez pioché dans des archives, vous avez exhumé des textes de Fanon. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce dossier ?
Ah, vraiment, c'est l'originalité de cette revue. Tout le monde m'écrit pour... Parce que quand Fanon est mort, tout de suite quand Fanon est mort, il y a eu des figures très importantes qui ont réagi et donc Présence africaine avait consacré tout un dossier au décès de Fanon. Donc il y a eu des figures comme Césaire, Berck, Maspero, mais vraiment des grandes figures de l'époque, Kwame Nkrumah, Nasser. Et quand il était question de rendre hommage à Fanon, j'ai pensé qu'il fallait d'abord piocher dans cette réserve-là. Et je crois que j'ai eu un peu le nez creux, parce que j'ai beaucoup de retours sur... À croire que l'actualité de Fanon ne compte pas, mais c'est surtout cette mémoire-là qui est souvent mise en exergue. Mais je vous dis Dieu merci.
Et vous avez trouvé, vous avez choisi de republier des textes aussi de Fanon.
Oui, c'est vrai. Fanon était une grande figure très importante. Il a participé au débat. La Présence africaine a organisé deux congrès mémorables. Le premier en 1956 à l'Amphi Descartes et le deuxième à Rome en 59. Or, Fanon a été dans tous ces deux débats, surtout le dernier qui était consacré au mouvement de décolonisation, c'est là où il rencontre Sartre. Il a été une vedette de ces deux congrès parce qu'il avait une voix qui portait et donc il fallait quand même aussi rendre hommage à Fanon, c'est-à-dire la première partie c'est Fanon par Fanon, il fallait ensuite les hommages après son décès et puis un suivi de l'actualité avec une particularité intéressante qui est l'apport de Cynthia Fleury, la philosophe Cynthia Fleury, qui a pratiquement le même parcours que Fanon, et donc je crois qu'il renouvelle Fanon parce qu'elle analyse Fanon par le biais de la santé. Et je pense qu'il faut, c'est cet aspect de Fanon qu'il faut, je crois, relire.
Et on trouve aussi un texte d'Adam Schatz, qui est le biographe de Franz Fanon, journaliste américain, c'est qui est l'éditeur à New York de la London Review of Books, un intellectuel important.
Oui, c'est vrai. Il a renouvelé, je pense aussi, du point de vue de la biographie, parce qu'il a le recul, l'étude de Fanon. Je pense que c'est vraiment le moment où il faut lire Fanon. Parce que je crois que longtemps, on a lu Fanon par-delà l'époque de Sartre. Et c'est vrai que Sartre... Chaque fois, et on doit aussi rendre hommage à Sartre parce qu'il avait des préfaces, ambiguës et fécondes. Parce que c'est ça ce qui est beau. Et donc, du coup, il écrasait aussi les auteurs. Et on ne dialoguait qu'avec Sartre.
Oui, quand il préface Flaubert, c'est plus facile. Mais donc là, en l'occurrence, il faut dire que Fanon l'a bien cherché parce qu'il est allé une nouvelle fois chercher Sartre. Entre-temps, vous le rappelez, là, il y a la rencontre à Rome à la faveur de, enfin via les temps modernes, via Claude Lanzmann, Simone de Beauvoir, mais et donc il y a une sorte de presque de coup de foudre. Enfin, en tous les cas, Fanon est impressionné par Sartre et donc alors qu'il est très malade déjà, il meurt à 36 ans, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Il est en train de terminer ce dernier livre et il demande à son éditeur.
À Maspero, oui. Demander à Sartre
une nouvelle
de me préfacer.
Préface.
Oui. Chaque fois que je me mets à la table, je pense à lui. Il se trouve que Sartre avait préfacé la nouvelle anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor, intitulée Orphée noir. C'est pratiquement le manifeste de la négritude. Mais dans dans cette préface, qu'est-ce que Sartre dit? Bon, les Noirs, je résume un peu, je caricature, les Noirs ont été victimes du racisme. Maintenant, les Africains reprennent la parole, donc c'est un racisme anti-racisme. Puisqu'on peut pas rester là, il faudrait que le mouvement de la négritude s'associe au mouvement ouvrier pour créer l'homme nouveau. Bon. Et Fanon a été, parmi tous les intellectuels africains de l'époque, le plus lucide. Et il leur a dit, mais Sartre vient de tuer la négritude.
Je vous lis un instant, Boniface Mongomboussa. Quand vous citez Fanon, quand je lus cette page, écrit Frantz Fanon, je sentis qu'on me volait ma dernière chance. Je déclarais à mes amis, la génération des jeunes poètes noirs vient de recevoir un coup qui ne pardonne pas.
C'est ça, exactement. On avait fait appel à l'ami des Noirs. L'ami des Noirs leur a dit, bah, écoutez, votre mouvement, il est mort-né. Et donc, on se dit, avec cette lucidité, il peut plus solliciter Sartre. Sauf quand il écrit les Damnés de la Terre, il dit à son éditeur, demandez à Sartre de me préfacer.
Mais parce qu'il est honnête quand il dit qu'à chaque fois qu'il se met à sa table de travail, il pense à Sartre. À cause de ça.
Oui.
Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Sartre lui donne un coup, mais Sartre, ce coup le fait avancer.
Mais oui. Même son premier livre, Peau noire, masque blanc, a été inspiré par réflexion sur la question juive. Et donc, il lit Sartre au quotidien. Mais en même temps, Sartre est insaisissable. Chaque fois qu'on lui demandait d'écrire une préface, il inventait quelque part un nouveau monde. Et Fanon le savait, mais il demande à Maspero, demandez à Sartre de me préfacer. C'est ça le mystère.
Merci beaucoup Boniface Mongomboussa. Dernier numéro de la revue Présence africaine, le numéro 207 consacré à Frantz Fanon. Merci. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, Aurélie Marsay, Sorge Leroy.